Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast. Que vous soyez du milieu médical ou non, je vous invite à rester à l'écoute de ces témoignages de patients et de soignants qui enrichissent jour après jour ma pratique. Je m'appelle Aurélie, infirmière depuis 2015. Je travaille à l'hôpital depuis toujours, exclusivement dans le domaine de la cardiologie. L'idée de ce podcast est née d'une envie de faire découvrir au grand public la réalité du métier, le côté agréable et humain auprès des malades et de ses collègues, et au contraire, le manque de moyens et de personnel d'autant plus évident ces derniers mois. De plus, il me paraissait aussi important d'inclure des témoignages de patients afin qu'ils nous fassent part de leur parcours de vie, des bons et des mauvais moments. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le podcast en compagnie de Nadia. Elle est infirmière en clinique dans le domaine du soin palliatif. À l'heure où la loi sur la fin de vie est de nouveau en discussion, je vous laisse à l'écoute de son interview riche d'expérience. Salut Nadia et merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Pour que tout le monde puisse te connaître, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ?
Très bien, bah déjà merci à toi. Hein. Et bah écoute, ça va être un peu rapide parce que donc, je me prénomme Nadia. Je suis infirmière, donc ça va faire depuis 2004 déjà, ouais. Mais avant ça j'étais aide-soignante, donc ça fait 35 ans que je suis dans les soins et que je travaille à la clinique là, depuis toutes ces années, mais en ayant aussi connu un peu autre chose avant, mais toujours dans les soins.
D'accord. Et du coup, quel service t'as fait avant qu'on parle des soins palliatifs ?
C'est ça. Donc déjà j'ai été aide-soignante pendant à peu près 16 ans. Et j'ai travaillé en service de maternité.
Ah oui.
Donc tu vois, d'une début de la vie, et là je décide, pas tout à fait en fin de carrière, mais quand même, d'aller sur la fin de vie. Du coup, oui, jeune aide-soignante, j'ai travaillé d'abord en médecine interne, ensuite en cardiologie intensive, et j'ai passé un peu plus de 13 ans en maternité. Ça m'a vraiment plu. Donc voilà, j'étais bien dans mon élément. Et ensuite... j'ai voulu avancer parce que le métier d'infirmier m'a toujours attirée. Prendre des responsabilités, c'est quelque chose vraiment qui me tenait à cœur. Et l'occasion s'est présentée, j'ai passé les examens et puis ayant réussi le passage, donc 2001 à 2004. Puis surtout, oui, j'ai eu l'occasion, comme je n'avais pas été financée pendant ces études, de travailler un peu sur les week-ends et dans d'autres secteurs, toujours de soins, mais par exemple à la petite enfance. Et d'accord. Ça m'a... Oh là là, mais ça m'a fait craquer. Alors, c'était des enfants qui n'étaient pas malades, hein, mais qui avaient un parcours de vie un peu difficile. Des enfants ou abandonnés, ou la vie faisait qu'ils se retrouvaient orphelins. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment plu. Par contre, en tant qu'auxiliaire, ou quête soignante, entre guillemets, mais plus comme auxiliaire, comme infirmière, c'était plus compliqué parce qu'il y avait quand même des traitements lourds à donner. On faisait beaucoup de tours avec le médecin. Et j'ai dit non, moi, je ne peux pas travailler comme infirmière. J'avais du mal à donner des traitements lourds à des enfants. Dans ma tête de jeune aide-soignante et puis de jeune infirmière malgré ma maturité d'âge, pour moi l'enfant il devait être en bonne santé et il y a des choses effectivement que même en tant que soignant on est capable de supporter et d'autres moins. Je crois que c'est important de se connaître et de connaître ses limites. Donc après effectivement dans différents secteurs de soins, en gériatrie, en cardiologie, en chirurgie, après ça, ça a été mon choix. Je voulais quelque chose un peu de carré.
Oui. On sait que la chirurgie, oui, c'est plus carré que de la médecine.
Exactement. Soit, ouais. Et après, en soins continus de chirurgie. Et en fait, après, au moment où ma décision, parce que c'est vrai qu'on dit la durée de vie, entre guillemets, d'une infirmière, c'est entre 4 et 7 ans, j'ai régulièrement changé de service. Et puis après, quand les choses ont vraiment changé, où j'avais le sentiment de devenir un peu une machine. Et l'essence de mon travail, il me semblait qu'il me filait entre les mains. Je dis non, mais je veux bien être compétente techniquement, c'est parfait, mais j'ai besoin de temps avec les patients. Et ce temps-là, en fait, on nous le volait. Il fallait un peu du rendement, donc c'était quand même un peu compliqué dans ma tête. Et j'avais suivi une formation en soins palliatifs. Ça m'avait vraiment intéressée. Je retrouvais vraiment, je reparle de l'essence même de notre travail, à savoir le prendre soin, mais dans la globalité. Et quand il y a eu un poste libre, j'ai présenté ma candidature, j'ai été acceptée et depuis je suis là.
Oui, c'est ça, on est d'accord, tu es la seule infirmière de l'unité mobile de soins palliatifs.
C'est ça, oui. Voilà. C'est une petite unité avec, alors, effectivement, une infirmière à temps plein, donc c'est moi, en l'occurrence, et les autres membres de l'équipe, donc c'est une psychologue à 70%, on a la chance d'avoir une kiné avec nous, donc deux médecins en équivalent un peu plus qu'un temps plein, et la secrétaire, bien sûr, qui est indispensable, je veux dire, dans le bon fonctionnement aussi de l'équipe, et puis dans le soutien qu'elle peut apporter aux unes et aux autres. Elle est dégagée des soins, elle a un autre regard, et puis elle est quand même spécialiste dans ce domaine, puisqu'elle est là avec le médecin et la kiné depuis la création du métier mobile de soins palliatifs.
D'accord. Et oui, ici, dans la clinique, il n'y a pas d'unité, ou en tout cas, il n'y a pas de lits qui sont identifiés comme...
Alors, justement, il y a des lits identifiés soins palliatifs, mais on n'a pas l'unité de soins palliatifs. C'est vrai qu'elle est au CHU, une unité de 10 lits. Nous, on a 7 à 8 lits identifiés soins palliatifs, en majorité en oncologie et en médecine interne. Mais ça ne nous empêche pas d'aller, quand on est appelé, sur les autres services, en chirurgie, en gériatrie... en médecine, en cardiologie, où on est quand même régulièrement appelé sur des situations un petit peu complexes. Et donc le lien vraiment se fait bien. Notre travail, effectivement, il est, j'allais dire, en deuxième ligne parce que les appels se font du côté des médecins référents.
Oui, comment vous êtes appelé, comment ça se passe une journée type ici, autant pour toi que pour les médecins, même je trouve intéressant, et je ne pensais pas du tout qu'il pouvait y avoir une kiné dans un service de soins palliatifs. Ouais.
Alors, c'est super intéressant, effectivement, parce que souvent, c'est des personnes affaiblies par la maladie, alitées, donc des ankyloses, des douleurs au niveau musculaire, au niveau squelettique, des personnes qui gardent un peu de mobilité aussi parfois, et on va maintenir tout ça. Donc c'est précieux, et puis on a vraiment de la chance de l'avoir. Elle a une formation aussi en réflexologie plantaire, donc il y a des choses qui sont proposées, donc de l'ordre vraiment du bien-être, de maintenir le plus longtemps possible et le plus possible l'autonomie des patients aussi, l'autonomie physique. Je trouve que c'est riche pour une équipe. Et du coup, alors, les services référents, les services de soins font appel à nous quand ils ont une situation de fin de vie ou quand ils ont un questionnement ou éthique ou au niveau thérapeutique, ils ont besoin de médecins qui sont un peu plus spécialisés, comme les médecins de soins palliatifs. Donc, ils nous appellent, soit directement sur la ligne de l'EMASP, de l'équipe mobile de soins palliatifs. Donc, la secrétaire répond, prend toutes les informations et puis nous prépare un dossier. Et elle nous en fait part, soit par mail, soit directement sur nos téléphones à nous quand on transfère les appels en l'absence de la secrétaire. Ou alors, quand on passe dans les services, directement, de visu, on nous appelle, j'aimerais te parler de ça. Alors moi, mes collègues infirmières ou aides-soignantes, en disant, est-ce que vous prenez en charge monsieur ou madame Intel, parce que franchement, on trouve qu'il n'est pas bien, puis il a beaucoup parlé de sa fin de vie à venir, il est très angoissé, ou alors il est très douloureux, ce qu'on met en place, ça ne suffit pas, il aurait besoin d'être entouré. Donc voilà, on peut être interpellé de cette façon-là. Par contre, il faut que ce soit toujours validé par le médecin, puisque les soins palliatifs, c'est quand même une décision médicale. Après, ce qui peut arriver, certaines familles ou certains patients font appel directement à l'équipe mobile de soins palliatifs. Donc là, c'est leur droit, faut savoir que c'est un droit. Et on va les voir. On informe l'équipe référente, mais on n'a pas besoin d'attendre l'aval d'un médecin. Oui. Mais par contre, bien sûr, il est informé. Ce qui est important, c'est qu'on travaille tout en... on collabore, ça c'est une évidence. Et puis, chacune dans son domaine apporte son savoir. Les personnes qui travaillent en soins palliatifs, c'est des personnes qui ont choisi d'y aller. Souvent, nous, les infirmières, comme on dit de base, on nous installe dans un service, on a besoin de nous ailleurs, et on y va, puisque, a priori, on est capable d'assurer différents services et différents soins. Par contre, en soins palliatifs, et heureusement, c'est un choix, parce que c'est quand même une particularité. Il faut pas forcément avoir de la bouteille, mais j'ai vu beaucoup de jeunes, surtout quand j'ai fait mon stage sur Gardanne.
Euh, La maison à Gardanne. Elle est installée depuis 1994 à Gardanne et elle est là pour humaniser l'accompagnement des personnes en fin de vie.
Des jeunes diplômés, mais qui avaient déjà été sensibilisés aux soins palliatifs, qui ont choisi de venir travailler. Alors là-bas, c'est particulier, hein. Ça n'a rien à voir avec la clinique ou les hôpitaux. Hein. Ouais. C'est un autre monde.
D'accord.
Ouais, c'est pas pour rien que ça s'appelle la maison, c'est vraiment ça, la maison Gardanne. C'est réputé, c'est très riche d'enseignements. Enfin, moi, j'ai beaucoup, beaucoup appris. C'était peut-être qu'une semaine, mais j'avais le sentiment d'avoir passé énormément de temps. Donc du coup, c'est surtout, moi j'allais dire, une envie, avoir quand même, être sûr dans ses gestes techniques, puisque ça c'est important, c'est rassurant pour les personnes. On ne peut pas démarrer en étant, bah, tiens, je vais poser mon premier caté sur une personne affaiblie comme ça. Non, non. Assurer les patients, même les familles et les collègues avec qui on travaille, il faut que nous déjà, on ait quand même un certain bagage au niveau technique, et puis après au niveau relationnel, évidemment. Et on a la formation, donc le diplôme universitaire de soins palliatifs, qui fait qu'on peut travailler effectivement dans ces unités-là.
Oui, et ça c'est une demande qui est faite pour travailler dans les unités.
Oui, ouais, en tout cas ici, ça a été, ouais, c'était la condition. Alors j'avais, au début, effectivement, j'avais postulé, je n'avais pas mon DU, et on m'a demandé de m'engager à le passer, ce que j'ai fait au bout d'un an et demi. Et puis c'est un enseignement très très riche.
Hein. Oui. Oui, j'imagine que ça complète les formations qu'on peut avoir dans les hôpitaux.
Ouais. Et on sait très bien que dans nos métiers, eh ben, on est sans cesse... dans les formations entre guillemets, enfin il faut en tout cas s'informer parce que la formation on n'y a pas toujours droit.
Oui.
On n'a pas, c'est compliqué. Mais par contre, on se doit, hein, ça fait partie aussi dans nos décrets de compétences, d'être informé sur les nouveautés, sur ce qui se passe au niveau médical, sur les nouvelles prises en charge. Voilà, donc ça fait partie de notre métier aussi. On a la SFAP, la Société française d'accompagnement en soins palliatifs, donc une société savante. On peut y adhérer, hein, pour celles qui sont intéressées, mais sinon c'est facile d'accès, hein, en cliquant. Alors, moi, je ne suis pas une pro, hein, t'auras compris, de l'internet et tout ça, mais c'est vrai que c'est très riche d'informations. Au départ, quand les différentes lois sont arrivées, entre la loi de 2005, la loi dite Leonetti, et ensuite celle de 2016, Leonetti-Claeys, autour des soins palliatifs, il y a eu des documents, de la documentation au profit des soignants et aussi des personnes, hein, lambda, qui ne sont pas forcément dans les soins, mais très bien fait, facile d'accès, de compréhension. Et d'ailleurs, on s'est servi de ces documents pour informer et former le personnel soignant et les personnes qui passaient dans la clinique, qui étaient demandeuses ou simplement curieuses de savoir ce qui se passait. Donc oui, il y a des actions comme ça qu'on fait aussi pour informer et un peu sensibiliser les personnes aux soins palliatifs.
Oui, mais tu fais bien d'en parler parce que pour beaucoup, on a du mal à faire une différence entre soins palliatifs, soins terminaux, suicide assisté. Il y a aussi les directives anticipées qui commencent à se faire un peu entendre à l'hôpital. Est-ce que tu peux faire un peu une explication de tout ça?
Alors, je ne sais pas si je serai... mais bon, en tout cas, voilà. C'est vrai que les directives anticipées, on en entend beaucoup parler. Alors, c'est un droit, pareil, mais pas une obligation.
Ouais.
Nous, en tant que soignants, on est... pour nous, c'est l'obligation de pouvoir informer les personnes que ça existe et comment pouvoir les mettre en place. Mais ce n'est absolument pas une obligation pour la personne d'écrire ces directives anticipées. Donc j'avais préparé des petits... parce que comme on forme aussi nos collègues, du coup, comment leur expliquer, mais simplement, qu'est-ce que c'est que les directives anticipées? Bon, c'est vrai que ça concerne déjà toutes les personnes majeures. C'est un droit, pas une obligation, comme on vient de dire. Quand on rentre en EHPAD, alors ça je l'ai entendu de la part de personnes qui travaillent en EHPAD et qui disent on oblige un petit peu les personnes à faire leur directive anticipée. Je trouve que c'est violent, je ne sais pas toi ce que tu en penses.
Oui, moi aussi récemment j'ai entendu ça de 2-3 personnes en disant que quand les patients rentraient en EHPAD, on leur demandait leur directive anticipée. C'est compliqué je trouve, en plus dans l'accueil qui est hyper importante. Du résident, de demander des directives anticipées. Ils savent déjà que l'EHPAD, c'est potentiellement leur dernière résidence. Mmh. Et en plus de ça, on leur demande ouais. directive avant de rentrer. Et c'est je trouve que c'est violent, comme tu dis.
Ben voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Je me dis qu'effectivement, on impose des choses à des personnes qui sont déjà fragilisées. Oui. Bon, elles quittent leur domicile, oui. Pas forcément avec un grand plaisir, mais oui, par obligation quoi. Parfois. Mm-hmm. Et du coup, les accueillir comme ça, c'est, bon, c'est pas
oui,
ça dont
c'est
on
pas
parle.
Ça, oui.
C'est
oui.
vraiment imposer quelque chose. Et que je rappelle, ce n'est pas une obligation pour chacun d'entre nous, hein, et même pour ces personnes âgées qui rentrent en EHPAD ou ailleurs. Mais c'est un droit qu'elles peuvent le saisir ou pas. Mais bon, voilà, on ne doit pas les obliger, on doit les informer, mais on ne doit pas les obliger à les écrire. Oui, chaque personne majeure peut les écrire. Pourquoi ? Pourquoi faire ? À quoi ça sert ? Donc, pour le cas où la personne serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté, les directives anticipées expriment donc sa volonté relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions, la poursuite, la limitation ou l'arrêt, ou même le refus de traitement ou d'actes médicaux. Voilà. Donc c'est un document qui sera écrit, bien sûr, daté et signé par les auteurs. Il s'identifie, hein, donc il y a le nom, le prénom, date et lieu de naissance. Faut savoir que les directives anticipées, elles peuvent être à tout moment révisées ou annulées. Ça, ben, nous, on a eu le cas hein, de personnes qui avaient fait des directives anticipées quand elles étaient en bonne santé, qui les ont rééditées même après. Et au moment où malheureusement la santé n'était plus là et que la maladie a pris le pas, on dit ben non, nous, voilà, j'ai mes directives, je ne les ai pas refaites, mais je ne veux pas en entendre parler. Moi, ce que je veux, puis on nous dit voilà. Tant qu'ils peuvent parler, tant qu'ils peuvent s'exprimer, eh bien, c'est, bien sûr, on ne va pas reprendre leurs directives en disant mais non, vous allez écrire ça sur un papier et on va l'appliquer. Tant qu'ils peuvent communiquer verbalement, eh bien, voilà, c'est leur parole. Enfin, qui va être prioritaire, c'est pas l'écrit.
Oui, c'est ça. Le directive anticipé, c'est quand le patient, il peut plus exprimer ses volontés.
C'est ça. Du coup, ouais, il faut quand même qu'on soit, qu'on garde toujours en tête que on a affaire à de l'humain et qu'il faut être aussi, nous déjà raisonnable et que faut faire preuve de bon sens, tout simplement, parce que des fois, on est bloqué par, c'est vrai, par des lois, par des impératifs, par et puis on a la tête dans le guidon. Du coup, on a du mal à raisonner ou on perd un peu notre bon sens hein, les uns et les autres, et c'est pas une critique hein, c'est juste qu'on est nous aussi humains et que des fois c'est bien d'avoir un autre avis ou quelqu'un qui dit attends, sors un peu la tête de l'eau là et, ah, et un peu plus large. Du coup voilà, on est appelé de différentes façons par différentes personnes. Les soins palliatifs, oui, c'est un droit pour les patients au même titre que ils doivent être soulagés de leur douleur. Ça, c'est une obligation de la part des soignants. Et donc les droits des patients, hein, tout est bien écrit, défini, et c'est ce que les soignants ont à cœur de mener, hein, c'est-à-dire à accompagner le mieux possible toutes les personnes, quelle que soit leur pathologie, hein, dans ce qu'ils sont en train de vivre. Mmh. Et quand c'est la fin de leur vie, mais en lien vraiment avec, parce que les soins palliatifs, donc comme on l'a dit au départ, le médecin va poser les soins palliatifs. C'est-à-dire que quand la maladie devient une maladie incurable, arrive en fin de course par rapport au traitement, qu'il n'y a plus possibilité de proposer un traitement qui va maintenir ou soulager ou préserver une qualité de vie qui convient au patient, à ce moment-là, on bascule dans les soins palliatifs. Alors, on est toujours, si on regarde bien, hein, dès le départ, quand on nous annonce une maladie grave, donc il y a bien sûr, on est dans le curatif, mais à côté, il y a des symptômes qui peuvent apparaître, ou des symptômes liés à la maladie, ou liés au traitement qu'on est en train de subir, et ça, il va falloir pallier à ces symptômes. Donc maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup aussi, et tant mieux, enfin, moi, j'aime bien associer les deux, quoi, les traitements un peu très actifs et purement chimiques, entre guillemets, et puis d'autres traitements un peu plus doux, donc on parle beaucoup de la phytothérapie, tout ça qui peuvent aider. Je sais que des patientes disaient, elles arrivaient des fois aussi avec leurs petites huiles essentielles qu'elles utilisaient, donc elles ont l'habitude de le faire, on ne va pas leur interdire, par contre nous on ne le fait pas, c'est sûr. Après l'homéopathie, beaucoup l'utilisent avant certaines chimios et permet d'éviter les nausées. Donc il y a toutes ces petites techniques qui sont associées et qui pallient à certains symptômes qui sont provoqués par les par le traitement, par la maladie bien sûr, mais par les traitements qui sont quand même assez costauds, ouais, pour certains.
Et on est d'accord que quand il y a en soins palliatifs, on n'arrête pas les traitements. On a une différence entre soins palliatifs et soins terminaux.
Eh ben oui, parce que soins palliatifs, c'est pas l'arrêt, comme ils disent souvent. Ah, les soins palliatifs arrivent, c'est la fin.
Oui,
c'est tout.
Voilà,
on arrête
c'est
tout.
Ça.
Pas du tout. Par contre, on va vraiment raisonner entre le bénéfice et le risque. Qu'est-ce qui va apporter un bien-être au patient, toujours avec son accord, hein, et quels sont les traitements qui sont inutiles et qui peuvent être même délétères pour sa santé, enfin pour son confort, entre guillemets. Alors, du coup, c'est vraiment de. Donc là, c'est les médecins, tout même le personnel paramédical au moment des staffs, au moment des transmissions, soit on fait appel à nous, soit elles le font déjà une fois seules et puis après on nous contacte, mais de se dire voilà, ce patient n'est pas bien, le médecin décide de l'arrêt de certains traitements parce qu'ils ne sont absolument pas efficaces, voire délétères, comme je viens de le dire, et là on bascule dans des soins dits de confort, c'est-à-dire que tout ce qui va être mis en place va permettre. On ne peut plus soigner la maladie, mais on peut peut-être continuer à maintenir une qualité de vie qui convienne aux patients. Donc, et ça s'accompagne, parce que c'est quand même pas rien, quoi, quand on se dit, ah ben mince, le mot palliatif fait peur. Donc quand on l'explique et quand on voit, ben non, nous on n'est pas bourreaux, on est des soignants et on accompagne en tout cas au mieux ce qui est en train de vous arriver. Donc, c'est de se dire, oui, il y a des traitements qui peuvent soulager votre souffrance, alors qu'elle soit physique ou psychologique. Nous, on appelle ça la souffrance globale. Hein. Mais du coup, c'est dire, il y a des possibilités de faire autrement. Peut-être que la maladie ne se guérit plus. Donc là, voilà, on est en soins palliatifs. Hein, de dire au début, du début jusqu'à ce que le médecin décide de dire, voilà, effectivement, il n'y a plus de traitement possible. Et ensuite, il y a cette phase terminale. Où là, vraiment, on arrive au bout de la vie du patient, en fait. Hein. Et cette phase terminale, pareil, on va arrêter des choses qui ne sont plus utiles. Mais par contre, on est dans l'obligation de continuer les antalgiques, les anxiolytiques. Ça paraît juste évident quand on dit on fait preuve de bon sens. Voilà, c'est ça. C'est accompagné. On ne hâte pas le décès, évidemment. On ne provoque rien. Par contre, on essaye vraiment d'emmener le plus loin possible. Alors quand je parle de loin possible, c'est vraiment dans le confort, le plus de confort possible, c'est plus les mots que je veux utiliser.
Ouais.
Parce que loin, personne ne le sait, hein. On n'a pas de boule de cristal, souvent les médecins disent ça, quand les familles et même le patient lui-même dit combien de temps il me reste, et ben en fait on ne sait pas trop.
On le sait pas, ouais.
Après bon, il y a des statistiques comme ils disent, hein, les médecins, et puis ils disent bon ben voilà, là on s'en approche, après on voit bien quand les patients décline, on se dit bon ben là c'est voilà, mais bon, ça s'accompagne, on accompagne aussi beaucoup les familles, les soignants, ça fait partie de notre rôle. Et voilà, j'ai des collègues qui se questionnent et c'est très bien, hein, et qui comprennent pas parfois l'intérêt de mettre par exemple une antibiothérapie, mais enfin il est en fin de vie. Je dis ben ouais, mais tu vois par exemple il frissonne, il est pas bien. On va lui mettre, les médecins mettent en place bien sûr les traitements, mais ces traitements sont à viser de confort. On ne va pas le laisser avec sa fièvre, donc il aura un antipyrétique, il aura des antibiotiques, mais dits à large spectre, qui vont éviter ces frissons, qui vont éviter ce mal-être. On n'a pas rajouté ça au patient. En cardiologie, souvent, c'est les diurétiques qui sont prolongés jusqu'à la fin, parce que, je sais pas, mais mourir étouffé ou. Faire un OAP massif, quand on sait qu'on peut limiter ça. Voilà.
OAP, œdème aigu du poumon. Il résulte d'une accumulation pathologique d'eau et de soluté dans le parenchyme pulmonaire, tissu fonctionnel du poumon, avec inondation brutale des alvéoles pulmonaires. Il en résulte un tlabo clinique d'insuffisance respiratoire aiguë, qui reste une urgence médicale, dont le diagnostic et le traitement doivent être pris en charge rapidement. Un des traitements de l'OAP est l'injection de diurétique, un médicament qui permet d'aider l'organisme à éliminer davantage d'eau et de sel qu'en temps normal. Ils agissent sur les reins à des niveaux différents selon le type de diurétique et augmentent la production d'urine.
Donc, on comprend, mais c'est à chaque fois expliquer, accompagner les collègues dans certains soins. On n'arrête pas, on continue vraiment les traitements qui peuvent apporter un bénéfice aux patients, même si ça paraît, pour certains démesurés, ça ne l'est pas. pour celui qui vit ça, ça ne l'est pas. Quand il a la douleur en moins, quand il peut un peu mieux respirer, quand, eh ben oui, c'est quand même mieux. Voilà. Ouais. Quand il a moins d'angoisse, parce que oui, la morale est là, mais c'est pas pour autant qu'il faille l'abandonner et qu'on dit, bon, on ferme la porte, on arrête tout, on enlève son cathé, on enlève... Oui. Bon, ben non, il y a des fois, on met des sondes nasogastriques, ça soulage le patient au niveau digestif. On met des sondes urinaires, ben ça évite tellement de désagréments pour les patients. Donc, on reste un peu dans la technique avec du matériel, mais du matériel à visée de confort.
Mmh. Voilà. Je trouve ça, non, mais je trouve ça intéressant parce que, bah, oui, tu me dis la sonde nasogastrique, pour moi, c'est...
C'est terrible, hein, comme...
Ah oui, c'est très traumatisant. J'en ai pas posé non plus énormément dans ma vie d'infirmière. Mais oui, c'est pas la première chose que je me dirais qu'on pose au patient pour le soulager.
C'est ça, on pense pas, on se dit, bah, ça, c'est pas un soin de confort, c'est un peu une torture. Et en même temps, alors, bien sûr, il faut utiliser le matériel qu'on a pour essayer de soulager au mieux avant la pose. En chirurgie gastrique, on en mettait beaucoup. Donc, et c'est vrai qu'en soins palliatifs, eh ben, c'est un geste aussi qu'on fait assez souvent et qui soulage immédiatement les personnes. Alors après, voilà, il y a des sprays anesthésiants. Ça, il faut vraiment qu'on soit... on met des traitements antalgiques avant, donc qu'on soit bien au fait de l'efficacité et de l'utilisation de ces traitements. Donc les médecins prescrivent, l'infirmière va mettre en place, elle va attendre le temps que ça agisse pour pouvoir mettre en place après la sonde nasogastrique, la sonde urinaire, un cathéter. Mmh. Il y a des patients qui bénéficient de voies veineuses un peu plus profondes, pouvoir justement bénéficier des traitements qui le soulagent.
On est d'accord que ça n'a rien à voir avec le suicide assisté ou ce genre de choses qui peut être pratiqué dans d'autres pays.
Non, on n'en est pas là, alors que bah, on voit bien que là, à l'Assemblée, bah, ça bouscule. Ouais, ah, y a oui. Des... Ouais. Bah, justement, le médecin nous a fait part de ce qui s'était passé, hein, enfin, de la grande discussion. De... C'est plus qu'une discussion, hein, c'est un projet de loi, là, proposition de loi à l'Assemblée générale, le 19 janvier 2021. Donc effectivement, alors à une époque, il parlait de dignité, et là, c'est plus de liberté. Donc on a changé de paradigme. Donc j'ai dit, bah, liberté de quoi? Bah, la liberté de mourir. J'ai dit, mais en fait, y a eu des personnes qui se sont manifestées, parce que ça clive un petit peu, c'est dommage, parce que ça ne doit pas être oui ou non, ça ne doit pas être binaire, comme on doit pouvoir en discuter et écouter, bien sûr, les grandes souffrances, mais souvent, quand on est en bonne santé, qu'on fait nos directives anticipées et qu'on pose la question, là, on nous pose la question... Tu voudrais souffrir en fin de vie? Je dis, bah, évidemment que non. Moi, je voudrais, ben, on sait qu'on est mortel, ok, mais que ça se passe le mieux possible. Souvent, on dit, moi, je ne veux pas finir comme un légume, entre guillemets. Voilà, c'est des mots qui sont dits. Hein. Et c'est, j'allais dire, normal et humain. Qui c'est qui voudrait... alors, on entend parler aussi de déchéance humaine, c'est des mots très durs, mais c'est le regard qu'on peut porter à la maladie qui diminue la personne. Et c'est ce fameux regard qu'on a vis-à-vis de la personne qui est soignée et qui peut tout changer. Alors moi, je suis assez... quand j'ai fait mes études, on avait ce fameux TFE à faire. Et on part d'une situation un petit peu qui nous a questionnés. Et la première chose, alors j'étais très jeune, je ne suis pas poète du tout. J'aime de temps en temps écrire. Et je vais me permettre de, justement, par rapport à ce regard. C'est venu d'un coup, ça n'avait rien à voir avec la fin de vie. C'était un jeune, alors c'était plutôt un stage de personnes qui étaient dépendantes de produits un peu stupéfiants et qui essayaient de s'en sortir. À la fois le regard et la parole avaient quelque chose de très très important pour eux. C'est souvent des personnes, jeunes et moins jeunes, qui ont une situation ou pas, hein, qui soient précaires ou alors qui ont vraiment des situations avec des responsabilités, mais qui ont eu ce sentiment, réel ou supposé, d'avoir été abandonnées quelque part et d'avoir été mal aimées. Je ne fais pas de raccourci, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je suis infirmière, je ne suis pas du tout médecin. J'ai beaucoup apprécié aussi de travailler avec des psychiatres, des psychologues, d'autres collègues infirmières qui étaient de ce milieu-là. Et la première chose que, voilà, quand je ne savais pas comment me comporter, j'avais besoin d'écrire. Et voilà, donc c'était par rapport au regard, si vous permettez. Alors vraiment... Critiquez-moi si vous voulez, mais j'étais très jeune, mais bon. Voilà, le regard, celui qui réchauffe, qui vous enveloppe, qui vous rassure, qui vous guide et vous encourage, celui qui vous glace, qui vous paralyse, qui vous méprise, qui vous tue. Le regard apaisant ou agressif, le regard est parole. Il peut être blessant ou amour, livide ou coloré. Il ne s'éteint jamais, puisque même mort et les yeux fermés, il continue d'exister dans le regard de l'autre, de briller quelque part chez ceux qui l'ont croisé, chez ceux qui l'ont aimé. Le regard qui nous permet de voir et d'écouter, qui nous permet de vivre et d'exister. Et c'est venu d'un coup, et je l'ai mis sur mon... Enfin, quand j'ai présenté, j'avais besoin. Peu importe les critiques que j'allais avoir, pour moi, c'était important à cette époque-là. Et là, quand j'entends ça et que... Alors, ça n'a plus rien à voir, mais que... Alors, c'est M. Pozzo di Borgo, Philippe, qui a lancé un appel, qui est très poignant, effectivement, contre l'euthanasie. Et du coup, j'ai ressorti mon petit truc là de rien du tout, mais bon, toute jeune déjà, et j'étais pas du tout dans les soins palliatifs. Hein. Je démarrais ma formation infirmier.
Oui, au début, t'étais pas destinée à ça.
Ah non,
moi j'ai vu que t'avais fait des soins, des services très techniques.
C'est ça.
Avec.
Et j'étais plutôt attirée justement par la technique. Mmh. Et voilà, donc je peux me permettre de lire. Donc poignant appel lancé par Philippe Pozzo di Borgo, intouchable, contre l'euthanasie. Je lance aujourd'hui un appel solennel aux parlementaires d'aujourd'hui et de demain. N'abolissez pas nos vies, surtout pas celles des plus fragiles. Vous ne vous rendez pas compte du désastre que vous provoquez chez les personnes qui se débattent avec des vies difficiles. Votre soutien à l'euthanasie ou au suicide assisté comme des morts libres, dignes et courageuses. Aurais-je manqué de dignité, de courage et de liberté en restant en vie, moi, l'intouchable ? 100% dépendant de l'aide d'autrui pour vivre et donc de participer à la société. Plus d'un quart de siècle de tétraplégie, marquée, j'ose le dire, par autant de joie que de douleur réelle, m'a vaccinée contre le piège du mot « liberté ». En toute liberté, après mon accident, quand je ne voyais pas de sens à cette vie de souffrance et d'immobilité, j'aurais exigé l'euthanasie si on me l'avait proposée. En toute liberté, j'aurais cédé à la désespérance si je n'avais pas lu, dans le regard de mes soignants et de mes proches, un profond respect de ma vie, dans l'état lamentable dans lequel j'étais. Leur considération fut la lumière qui m'a convaincue que ma propre dignité était intacte. Ce sont eux et tous ceux qui m'aiment qui m'ont donné le goût de vivre. En réalité, affirmer qu'au menu de la vie on pourrait choisir sa mort est une absurdité et une violence, de même qu'il est absurde et violent d'exiger d'un soignant qu'il transgresse l'interdit de tuer. Car c'est cet interdit qui limite sa toute-puissance, nous met sur un pied d'égalité, m'autorise à exister et, si j'en éprouve le besoin, à me plaindre sans crainte d'être poussé vers la sortie. On nous dit « c'est un droit qu'on vous propose ». Il ne vous enlève rien, mais si ce prétendu droit m'enlève ma dignité et tôt ou tard me désigne la porte, ne voyez-vous pas la pression, pour ne pas dire l'oppression, qui monte quand une société rend éligible à la mort les plus humiliés, les plus souffrants, les plus isolés, les plus défigurés, les moins résistants à la pitié des autres et certains de revendiquer déjà les plus coûteux. Avec mes amis de soulager mais pas tuer, je lance cet appel solennel. Le moment est à prendre soin les uns des autres, à accompagner chacun, à soulager toute douleur, peine et souffrance, à retisser des liens de solidarité avec les personnes malades, dépendantes, isolées. Le moment n'est plus que jamais à soulager, pas à tuer. Voilà, moi je trouve ce texte juste formidable et vraiment, moi ça me touche parce que ça me parle et je suis là-dedans, quoi. Donc je comprends que d'autres personnes ne puissent pas être d'accord avec ça, mais j'ai du mal quand même. Je me dis, on ne peut pas choisir à la place de l'autre. Et puis, on ne peut pas imposer aux soignants aussi de faire cet acte, qui est légalisé dans d'autres pays et qui est fortement, et je pense que ça deviendra effectivement aussi en France, mais il faut que ce soit bien balisé, enfin, je ne sais pas, mais... Donc, je pense que c'est vraiment au cas par cas, pas se dire, il faut vraiment que ça ne vienne pas du soignant, de dire, oui, bon, ben, moi, je le vois souffrir, et j'estime que sa vie ne vaut plus la peine d'être vécue, parce que, ben, il est complètement dépendant, ben, là, il le dit bien, hein, Philippe Pozzo di Borgo, que voilà, oui, il est peut-être dépendant, mais le regard qui est porté sur lui, lui donne un sens à cette vie, même si c'est compliqué. Il a trouvé le sens de sa vie au travers le regard des autres. Après, il y a des personnes Alors, souvent, on en a eu beaucoup de personnes âgées, effectivement, qui disent « je suis une charge pour... j'ai assez vécu, c'est bon, je ne peux plus supporter ça. Et à quoi bon ? Le résultat sera quand même la fin de ma vie. Donc, que ce soit aujourd'hui ou dans 3 semaines, c'est quoi l'intérêt ?» Et je pense que tout ça, ça s'accompagne. Donc, oui, non, pour, contre, c'est attention, déjà, être prudent. Il faudrait déjà... Enfin, si la loi, mais je pense qu'on est tous... persuadé qu'un jour ou l'autre ça va aussi arriver chez nous, en Espagne, en Portugal, voilà, ça y est. Mais il y a tellement de dérives, ça on n'en parle pas beaucoup, mais justement le médecin quand il présentait projet de loi, proposition de loi autour de l'euthanasie ou du suicide assisté, les dérives qui existent en Belgique, qui sont dénoncées, hein, puis en plus la Belgique a ouvert ce droit aux enfants. Donc, y a des choses qui font peur, quoi. Franchement, moi je le dis honnêtement, hein, en tant que soignant, on n'a pas choisi ce métier pour tuer, mais plutôt pour sauver. Les soins palliatifs permettent d'accompagner, mais voilà. Après, la loi vraiment de Leonetti Claes 2016, elle, pour nous, elle est tellement complète. Avec la possibilité, quand les traitements, alors vraiment tous les traitements qui sont mis en place par les médecins, quand on les réévalue et qu'on voit qu'il y a toujours cette souffrance, hein, globale, aussi bien physique que psychologique, et parfois la douleur psychologique prend le pas et qui est difficile à calmer, il y a cette possibilité de, souvent on dit endormir, hein, les gens disent qu'il faut m'endormir, voilà, c'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès du patient.
Nous, en tant que professionnels de santé paramédicaux, je trouve qu'on est d'autant plus accueillants, écoutants, réceptifs à tout ça.
C'est
tout ce qui va autour. Mmh. Et voilà, on ne s'arrête pas à ce traitement-là. C'est plutôt tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a autour. Mmh.
Ouais. Et c'est ce qui fait, en fait, c'est ce qui fait nos forces et puis qu'il faut plus développer et valoriser. Alors peut-être que ça changera, parce que c'est vraiment, je veux dire, le cœur du métier, c'est prendre soin de la personne. Mmh. Donc, dans ce qu'elle est, et puis la connaître, et voilà, être sensible. Alors on l'est, on fait preuve d'empathie, effectivement. Donc c'est un métier qui est quand même complet. Et il faut aussi, quand je dis connaître ses limites, c'est justement pour ne pas être démuni et pas être trop épuisé par ce métier qui est quand même très prenant.
Oui, c'est ça. Puis le fait d'être en équipe, autant que toi là, avec l'équipe mobile ou dans les équipes et libéraux et à l'hôpital, on peut se passer le relais si
tout
c'est compliqué pour les unes ou pour les autres.
Ouais.
Et ça, c'est aussi riche dans le travail. Et,
et ça nous aide à poursuivre, à continuer et à tenir. Mm. Ouais. C'est vrai que souvent, je dis, hein, alors c'est les étudiants quand ils viennent voir et puis... beaucoup de questionnements autour de cette fin de vie, autour de cette mort, autour de comment on fait. Et puis quand on nous pose des questions, même des soignants, hein, qui sont même aguerris, quand ils posent des questions autour de la mort, qu'est-ce que je dois dire, il n'y a pas, en fait, on n'a pas une recette avec les ingrédients, avec ce qu'il faut dire. Voilà, tu sors. C'est en fonction déjà de toi, de tes connaissances à toi, et comment tu perçois ton patient, la personne qui s'adresse à toi. Dans son lit diminué, communiquant verbalement plus ou moins bien ou pas, tu vas, des fois, il y a des silences qui sont rassurants. Donc, ça aussi, et puis quand on ne sait pas, on a le droit de dire écoutez, là, je n'ai pas de réponse à votre question. Mais des fois, il n'a pas besoin de réponse, il a juste besoin de s'exprimer. Et nous, on a la psychologue qui aide vraiment. Elle n'est pas là pour faire ce qu'on connaît de la psychologie ou ce qu'on imagine connaître de la psychologie dans les soins palliatifs. Quand on dit à la psychologue, mais j'ai pas besoin d'elle Et en fait, non, c'est un autre regard, c'est un accompagnement qui est très riche et qui aide beaucoup. Et la personne malade et l'entourage, parfois, qui en a besoin. Et des fois, on ne se rend pas compte qu'on a besoin de ça. Et en fait, quand on vit les choses, c'est un soutien et parfois, oui, une aide importante et même des fois indispensable pour pouvoir continuer. Et puis après, il y a le suivi de deuil aussi qui peut se faire. Elle peut recevoir des proches, des défunts sur des rendez-vous. Hein, donc, elle peut la recevoir aussi après. Donc.
D'accord.
Oui, c'est très riche. Les soins palliatifs, ça ne s'arrête pas.
Oui, je trouve ça... Moi, j'ai goûté en cardiologie et je trouve ça hyper intéressant.
Par contre, c'est vrai qu'il faut être soutenu.
Ouais.
Et on a besoin aussi de fenêtres pour respirer, pour
Oui, l'extérieur, il faut qu'à la maison ça se passe bien aussi pour arriver à supporter
tout à fait, ouais.
Tout ça. Bah, merci pour ton témoignage.
Bah, merci à toi.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous, nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée.